C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Pour terminer la saison, moi je tombe en congé estival le vendredi. On va essayer de faire une entrevue bilan avec des personnalités. Chaque jour cette semaine, on commence avec la PDG d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu, tête dirigeante incontournable au Québec. Plusieurs dossiers nous attendent. Et Hydro-Québec, je le rappelle, il y a un petit peu, beaucoup même de nous autres là-dedans. Madame Brochu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'abord, commençons avec la tempête, la fameuse tempête de vent qui a eu lieu il y a quelques semaines. Est-ce qu'on connaît le montant de la facture?
Oui, écoute, ça va frôler 70 millions.
OK. Oh, mon Dieu, c'est costaud.
C'est costaud. Mais écoute, il y a eu 500 000 clients sans électricité. Il y a eu 11 000 pannes. On a remplacé 1200 poteaux, rebâtis par petits bouts, 40 kilomètres de ligne. Très costaud, 2000 personnes sur le terrain, une affaire de fou.
Est-ce que 70 millions de dollars, est-ce que c'est, si on compare ça à d'autres cataclysmes dans les dernières décennies, ça se mesure comment?
Écoute, je peux pas comparer tout ça, là, mais je sais que quand on a eu la panne à l'Halloween, là, tu sais, à Laval, oui. Il y a une couple d'années, là,
oui.
Ça avait coûté à peu près 30 millions, si ma mémoire est bonne. Fait que là, on est ailleurs. C'est beaucoup de chaud. Et puis, j'en profite pour dire que c'est pas les clients qui vont payer pour ça, là, c'est le profit d'Hydro-Québec qui va l'absorber.
OK. Ça a exposé quelle sorte de vulnérabilité dans le réseau qu'il faudrait corriger, d'après vous?
En fait, il y a un réseau physique et un réseau humain.
Mmh.
Dans le réseau physique, franchement, ce qui est arrivé, on appelle ça un déréchaud. Là.
Un quoi? Un déréchaud? Ah, c'est le nom du phénomène météo.
L'orage de fou, il est comme 100 km par 300 km. Puis ça a frappé le Québec et avec des vents de 150 km à l'heure, à des bouts. Fait que là, c'est pas des branches cassées qui se contrôlent par de la végétation. Ce sont des arbres immenses qui ont levé de terre puis qui se sont affaissés sur les lignes. Alors, moi, physiquement, ce que ça me dit, outre ce qu'on peut faire chez Hydro-Québec, là, c'est que dans des événements comme ça, il faut qu'on développe une résilience collective, citoyenne, pour avoir dans différents endroits, à une municipalité ou dans une communauté, un lieu où il y a une génératrice, surtout quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité. Dans le coin où on était, il y a ça. Ce que ça dit sur le réseau humain, par ailleurs, c'est que Hydro-Québec a bien fait, mais on peut faire encore mieux. Alors déjà, on est en train de se redéployer pour dire comment on va systématiser, dès qu'on voit qu'il y a une panne importante, on ne fera pas ça à toutes les petites panettes, là, mais quand il y a une panne importante, systématiser, par exemple, un point de presse à 11 heures tous les matins pour que les gens puissent se connecter, pour que tout le monde ait l'information en même temps. Puis on aurait pu, je pense, mieux travailler avec les municipalités pour dégager certaines routes d'accès parce que parfois, on n'arrivait même pas sur les pannes.
On dit que l'émondage autour des lignes a peut-être été, je ne veux pas utiliser le mot négligent, mais négligé, disons ça comme ça, là, et que ça a fait en sorte que bien des branches, bien des arbres qui sont tombés. Est-ce que ça, dans une perspective de changement climatique auquel il faut se préparer,
absolument.
Est-ce que ça vous fait réfléchir à la résilience du réseau lui-même?
Ah oui, absolument. Puis là, il faut bien comprendre une chose. Là, ce que je parle, c'est de cette tempête-là. Ce n'est pas des branches qui sont tombées, ce sont des arbres.
Oui.
Par ailleurs, c'est vrai que pendant une dizaine d'années, Hydro-Québec a sous-investi en contrôle de la végétation. On appelle ça comme ça, couper les branches. Fait que depuis 2 ans, on monte en régime. Ça nous coûte 100 millions par année. Il faut vraiment élaguer. Puis on est en train de développer ce qu'on appelle un plan d'adaptation au changement climatique. Le vent, l'eau, le feu, ça va arriver plus souvent. M. Lagacé. Et il faut qu'on s'y prépare, nous, il faut que les populations s'y préparent. Pensez à incendie de forêt dans le Grand Nord, là où on transporte notre électricité sur de longues distances. Quand le feu prend, ça fait ce qu'on appelle déclencher les lignes. Alors, quand il fait trop chaud, la ligne déclenche et que ça arrête le transport d'électricité automatiquement par protection. Alors, si ça arrive de plus en plus souvent, puis quand on est en période estivale, que la demande de climatisation est importante, le feu en soi, c'est un enjeu. L'eau, pendant qu'on gérait la crise dont tout le monde parle ici beaucoup, là, on gérait aussi une crise de crue dans le bout de Gatineau. Eux, ils ont vécu le vent, mais ils étaient aux prises avec des crues printanières. Alors, il faut savoir, Hydro-Québec là, vide son réservoir à la fin de l'hiver pour que quand on arrive au printemps, le réservoir il puisse accueillir la fonte des neiges, la crue printanière avec un cycle d'eau qui nous tombe sur la tête qu'on connaît. On est arrivé au moment de l'orage, là, ou un peu avant, en fait, à 85 % de remplissage du réservoir. On laissait aller un peu d'eau, comme c'est normal. En 2 jours, il est tombé 2 mois de pluie.
En 2 jours.
En 2 jours. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens de Gatineau qui ont vécu ça en 2017-2019 se sont remis à réinstaller des sacs pour protéger leur résidence. À la question, est-ce que c'est les barrages qui causent ça? La réponse est non. Il n'y aurait pas de barrage que les gens ne se seraient pas construits là. Mais il y a une question à se poser. Est-ce que les municipalités doivent continuer d'émettre des permis de construction ou de rénovation?
En zone inondable.
En zone inondable pour garder le real estate pour avoir la taxe foncière. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est certain qu'une personne qui a été inondée va l'être à nouveau.
OK. Il y a beaucoup de questions sur l'électrification des transports. Ça intéresse beaucoup de gens d'avoir peut-être une voiture électrique, surtout à 2,20 du litre d'essence. Et les questions que les gens se posent, là, les auditeurs m'envoient ça dans la messagerie, c'est parfait, on aura plus de voitures électriques, ça va faire une plus grande demande. Est-ce que Hydro-Québec a les moyens énergétiques de faire face à... On prédit, là, 2050, 5 millions de véhicules électriques au Québec. Et 2050, vous le savez, c'est après-demain, là.
Oui. En fait, la question est très pertinente, est très intéressante. Au plan énergétique, là, ça ne sera pas un souci. Ce qu'on va devoir gérer, c'est ce que j'appelle, moi, la logistique. À quel moment on va charger nos véhicules, quand on va les charger à la maison ou dans le système de bornes de recharge. Par ailleurs, il faut que le réseau de bornes de recharge se développe. Il y a 10 ans, là, quand Hydro-Québec s'est lancé dans le circuit électrique, là, il n'y avait personne qui mettait des bornes de recharge. Il fallait mettre de l'eau dans la pompe. C'est ce qu'Hydro-Québec a fait en développant un circuit. Là, ce qui est bien, ce qui est sain, ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait des partenaires privés qui s'associent puis qui installent leurs propres bornes.
Oui.
Alors, l'idée, c'est de déployer un réseau de recharge qui va être capable d'accommoder les clients.
Mais ça, c'est une chose, mais il faut de l'électricité à fournir.
L'électricité, on va l'avoir, cher. Ben, en fait, on l'a. On a ce qu'il faut. Ce que ça va nous prendre, par ailleurs, c'est une tarification puis une capacité, par exemple, de recharger un véhicule chaque fois que ça sera possible, durant la nuit, pas à 6 heures le soir, puis tout le monde en même temps.
Ce qu'on appelle la puissance.
Oui. Exactement.
Dans le réseau, en termes là, de en termes techniques, c'est pas est-ce qu'on a la capacité, c'est est-ce qu'on a la capacité à entre 6 heures puis 8 heures,
c'est ça.
Puis le soir.
Visualisons un pont, OK?
Ouais.
Un pont, mettons que tu as 3 voies sur un pont, il y a des heures où tu aurais besoin de 6 voies sur le pont pour passer tout le monde. Il y a une contrainte. Alors l'idée, c'est de s'assurer, tu peux pas bâtir des ponts à 6 voies alors que tu vas les utiliser, ces 6 voies-là, pendant une heure ou deux par jour. Fait que c'est ça qu'il faut éviter.
OK. L'Italie fait déjà ça, tarifé selon la puissance. Donc, si tu choisis d'utiliser beaucoup d'électricité le matin ou le soir, tu vas être tarifé, tu vas être facturé beaucoup plus lourdement. Est-ce que c'est dans les cartons de demander ça chez vous?
En fait, c'est dans nos cartons d'abord d'expliquer les affaires au Québec, parce que depuis tant d'années, on n'a pas eu besoin de faire ça. Fait que là, il faut s'expliquer. À charge pour Hydro-Québec de donner de l'information. C'est ce qu'on fait dans notre plan. Après ça, ce qu'on veut, c'est aider les gens à adopter des bons comportements. Donc, en les incitant. Avant de donner un coup de bâton, là, on peut les inciter. Puis nous, M. Lagacé, on peut mettre pas mal de sous sur la table parce que les coûts évités d'Hydro-Québec en n'étant pas obligé de construire des lignes de transport, de la distribution, il y a des sous, là. Alors, l'idée, c'est de partager avec nos clients qui ont envie les bénéfices associés à une consommation qui va être modulée. Puis au final, s'il en manque, on aura une autre conversation. Mais on n'a pas besoin de plonger les Québécois dans une eau bouillante actuellement au plan tarifaire. Faut s'expliquer, faut qu'ils comprennent, faut les inciter, faut qu'ils aient le goût, faut que ce soit rémunérable. Et moi, je pense que quand les Québécois vont comprendre, les Québécoises vont comprendre que l'adoption d'un comportement plus efficient, c'est non seulement bon pour eux, bon pour la planète, mais ça nous permet d'accueillir sur notre réseau des charges qui aujourd'hui sont servies aux fossiles. Ben, là, on va frapper, je pense, l'imaginaire d'un éventail large de Québécois.
Puis si la persuasion fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive?
Ben, écoute, ça va être dans un autre régime parce que je pense qu'elle va fonctionner, là. Puis ça va prendre un petit peu de temps. Puis la tarification, c'est certain que c'est un indicateur, mais il faut que les gens comprennent qu'on veut pas aller chercher plus d'argent dans leur poche. On veut que les gens adoptent un comportement différent.
Parce que, je vais vous poser la question autrement. Trouvez-vous que les Québécois sont responsables dans leur consommation d'électricité? Puis je m'explique, on a les taux les plus bas d'hydroélectricité, d'électricité en Amérique du Nord. On est chanceux, mais ça fait que parce que ça coûte pas cher,
absolument,
on peut gaspiller. Hein?
Oui, c'est comme l'eau.
Mais trouvez-vous que c'est assez cher?
Ben, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas suffisamment chère. C'est que les indications qu'on donne aux clients sur la valeur de l'électricité à 6 heures le soir le 2 février par rapport à 4 heures du matin à un 3 mai, c'est le même prix. Et c'est nous qui devons expliquer aux clients que s'ils sont capables de déplacer d'effacer, de mieux consommer ou de déplacer leur consommation, qu'ils vont avoir un incitatif financier. Moi, présentement, je suis plus dans l'incitatif que dans le bâton. Puis le jour où les gens vont voir qu'ils vont avoir des sous dans leur poche, ceux qui sont sensibles aux sous vont adopter un autre comportement. Mais il faut qu'on s'en aille là. L'autre affaire après ça, ce qu'on va vouloir faire, je pense collectivement, puis je dis je pense parce que c'est pas à Sophie Brochu à Hydro-Québec de déterminer ça. Il va y avoir un débat de société. Mais aujourd'hui, on a une électricité absolument formidable, ce qu'on appelle l'électricité patrimoniale. Puis tous et chacun avons une part de cette électricité-là dans notre consommation résidentielle, par exemple. Aujourd'hui, la tarification d'Hydro-Québec favorise les riches. Parce qu'elle favorise ceux qui pourraient payer plus cher parce qu'ils consomment beaucoup, mais qui n'ont pas besoin de payer plus cher. Parce que... Alors, j'en suis pas sûr. As-tu le droit d'avoir une grosse maison ou pas? Tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Mais probablement que si ça te coûte, mettons, aujourd'hui 12 000 piastres d'électricité, ça pourrait t'en coûter 24 000. Puis tu aurais l'argent pour le payer.
Donc, si je décode bien ce que vous me dites, là, c'est avant de surtarifer tout le monde, on va aller vers les maisons, les grosses maisons, énergivore, 30 000, 40 000 watts
consommation. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'assurer que les gens qui consomment beaucoup et dont l'élasticité de la demande par rapport au prix le permet, visiblement parce qu'ils consomment beaucoup, ben il va y avoir un autre palier. Présentement, on a deux paliers. On pourrait très bien penser qu'il va y avoir un troisième palier et qui fait en sorte que, parce que plus tu consommes dans ton électricité, dans le résidentiel, plus tu payes cher, mais tu pourrais très bien avoir un troisième palier puis tarifier davantage la puissance. Fait que si tu as un spa l'hiver, puis que tu chauffes ton entrée de garage, puis que tu tires sur Hydro-Québec un 2 février à 6 heures l'après-midi, ça va coûter cher. Ça, c'est normalement ce qu'on devrait faire. Ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que quelqu'un qui vit à logement, dans une passoire énergétique, c'est la rue Parthenay, puis qui a aucune incidence sur sa consommation d'énergie, puis qui déjà...
Qui a aucune option. Là.
Aucune option. Ça, ces gens-là, faut les protéger. Puis il faut trouver la façon de le faire. Puis ça se fait pas juste avec des tarifs électriques, ça se fait avec de la fiscalité, ça se fait avec de la fiscalité sur l'isolation des bâtiments. Il y a une loi en Belgique, ça s'appelle ça, je pense que ça s'appelle comme ça, la loi anti-passoire énergétique. Si tu as un bloc appartement, puis que tu loues tes appartements après un certain temps, et tu ne peux pas augmenter tes loyers si ton bloc ne rencontre pas des specs d'efficacité énergétique.
Donc, ceux qui ont des grosses maisons et qui ont les moyens de faire chauffer leur asphalte pour ne pas avoir de neige en hiver, vous leur dites tout de suite de commencer à mettre de l'argent de côté pour le bill d'électricité.
Ben, en fait, oui, parce que directionnellement parlant, je ne vois pas comment on pourrait surcharger l'ensemble des Québécois parce que, puis encore une fois, là, c'est pas parce que ces gens-là existent qu'il y a une surconsommation d'électricité. Vous et moi, je peux faire beaucoup mieux avec ma consommation d'électricité. Tout le monde peut faire mieux. Il s'agit de comprendre ce que c'est et de voir la valeur extraordinaire de notre électricité. Vous le disiez tantôt, on a le tarif résidentiel le moins cher en Amérique. Aujourd'hui, on est à, mettons, 9 cents du kilowattheure. Aller à New York, aller à Boston, aller au sud de la frontière, au Vermont.
Beaucoup plus cher.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Puis on veut pas aller là. Donc, il faut qu'on se contrôle. C'est pour ça qu'on a un plan très agressif en efficacité énergétique pour faire en sorte qu'on se dégage une marge de manœuvre qui va nous empêcher de construire des ouvrages. Parce que quand tu construis des ouvrages pour répondre à une demande de pointe l'hiver, bien, c'est des barrages ou c'est des éoliennes, c'est la ligne de transmission, c'est la ligne de distribution. Là, on arrive à Montréal. Prenons Montréal. On arrive à Montréal, là. Et bien, sur l'île, c'est un vieux réseau. Des vieilles stations. Il faut tous rénover ça. Et puis notre consommation électrique augmente. Fait que vraiment, il faut qu'on change nos comportements. Moi, j'ai confiance qu'à partir du moment où on va commencer à l'expliquer comme il faut, puis ça, c'est notre boulot, que les gens vont embarquer.
Mais on verra si la carotte va être suffisante. Merci d'être venu nous visiter aujourd'hui.
Ah, ça nous fait plaisir.
À la prochaine. Sophie Brochu, PDG de Hydro-Québec. Bonne soirée.
Bonnes vacances.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Toute la semaine, pour souligner notre fin de saison qui approche, ben, on fait des entrevues avec des gens qui ont marqué l'actualité, qui sont pas forcément dans l'actualité présentement. Il est allé là où personne n'est allé. Je parle bien sûr de l'astronaute David Saint-Jacques. Salut David!
Oui, bonjour François. Bonjour, bonjour. Patrick, pardon. Patrick, pardon. J'avais encore le nom du technicien en tête.
Oui, notre recherchiste François Arnois. Merci,
merci David. Merci François.
Merci David d'être avec nous. D'abord, je veux parler de tourisme spatial. Je me demandais ce qu'un professionnel de l'exploration spatiale comme toi pensait des amateurs qui font dans le tourisme spatial.
Écoute, plusieurs choses à dire à ce sujet-là. En gros, C'est une bonne chose. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je les ai rencontrés, là, les touristes spatiaux de qui on parle. C'est pas des touristes, là. C'est du monde qui s'entraîne sérieusement et qui mettent beaucoup, qui mettent leur vie en danger et qui vont dans l'espace. C'est comme si on parle de Mark Patti, le Montréalais qui est allé récemment. Il a amené de l'expérience scientifique. Et il y a deux choses importantes là-dedans. D'abord, tous les vols spatiaux, c'est des prototypes. Alors, les gens qui investissent leur argent comme ça pour un vol spatial, ben, ils investissent dans le développement des technologies spatiales. Deuxièmement, les gens qui sont capables de se permettre ça, d'habitude, c'est des gens qui ont de l'influence dans la société. C'est des hommes d'affaires à succès ou des femmes d'affaires. Et moi, je trouve ça bien que des gens avec autant d'influence voient la Terre flotter dans le vide parce que ça change complètement ta perspective. J'espère même qu'un jour, il y aura un sommet du G20 en orbite. Je pense que ça changerait complètement le ton et les hypothèses de base.
Qu'est-ce que ça changerait dans la perspective des grands de ce monde?
Écoutez, on a tous vu ces images-là de la Terre qui flotte dans le vide. Les images vues de la Lune, par exemple. Là. Mais la voir de ses propres yeux, je te dis, c'est pas tant que la Terre est belle et merveilleuse. C'est vrai qu'elle l'est, puis c'est tellement gracieux, c'est touchant. Mais quand tu te retournes pour voir où est-ce qu'on est, au milieu d'absolument nulle part, on est dans l'espace. C'est pas un autre endroit, l'espace. C'est comme le continent, tu sais, en ce moment-là. Es-tu à Montréal, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur Terre ou dans l'espace? Tout ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup plus d'espace que de Terre. Et c'est cette perspective-là qu'on est un peu, c'est notre seule maison, c'est ça notre vaisseau spatial, qu'on est tous dans le même bateau, qu'il faut en prendre soin, que c'est un miracle, cette oasis-là, et que même si les problèmes politiques sont réels, il faut trouver une solution, les problèmes environnementaux, il faut trouver une solution. Ça donne comme un sentiment de pas avoir le choix, de s'attaquer aux grands problèmes. C'est comme si ça changeait complètement, les priorisations.
Mais David, c'est un peu triste de penser que les grands de ce monde devraient aller dans l'espace pour réaliser à quel point c'est fragile et précieux ce qu'on a ici en ce bon monde.
Ben, triste, je sais pas, il faut ce qu'il faut. Je pense que c'est une question de perspective toujours. Hein? Quand on est pas être président de quoi que ce soit, pour savoir dans notre expérience personnelle que souvent ce qui nous fait faire des erreurs de jugement, c'est la mauvaise perspective. C'est quand on se concentre sur les choses qui sont moins importantes. C'est quand on oublie les choses graves, comme le fameux gorille dans la pièce. Oui. En ce moment, tu sais, les grands gorilles dans la pièce qu'on oublie des fois, c'est que les ressources, faut les protéger. L'avenir de nos enfants, faut le protéger. Puis il faut trouver des solutions pour mieux vivre ensemble. Voilà, je philosophe beaucoup cet après-midi, mais moi, je suis content que des gens, influents, voient ça de leurs propres yeux. Je pense que c'est juste bon pour tout le monde.
Avais-tu ce côté philosophe, ce recul-là, avant d'aller dans l'espace?
J'avoue que ça, c'était comme un peu abstrait pour moi. Maintenant, c'est très concret. Deux choses sont très concrètes. Un, c'est pas des farces. La Terre, c'est beau, c'est merveilleux, mais c'est pas très gros. Et c'est comme des ressources finies. Il n'y en a pas infiniment. Hein? Quand tu sors de ta maison, c'est pas évident. Ça a l'air gros, la Terre, là. Le ciel, ça a l'air infiniment grand. Les océans, ça a l'air infiniment profond. Tu sais, au niveau, instinctif, ça a l'air infini, tout ça, mais ça l'est pas. C'est tellement pas gros. C'est tellement un miracle. Et là, on voit bien pourquoi il y a des conflits. Les ressources sont limitées. Il n'y a pas de nouvel air, de nouvelle eau qui arrive. C'est tout recyclé. Donc, il y a comme un côté à ça qui est un peu, wow, OK, c'est, pour parler en bon québécois, c'est pas du niaisage, là. C'est vraiment des problèmes qu'il faut régler. L'autre aspect qui est merveilleux, c'est, qui m'a fait revenir très enthousiaste, c'est que, dans le domaine spatial, à chaque jour, on démontre depuis des décennies qu'on est capable de travailler ensemble. C'est pas du blabla, là. C'est pratico-pratique à chaque jour. Des nations qui, par ailleurs, des fois, s'entendent pas, se chicanent, se font la guerre. Dans l'espace, on travaille ensemble. C'est comme si c'était un pont au-dessus des nuages qu'on garde toujours ouvert. C'est comme si ça avait cette capacité-là de faire grandir l'être humain, de nous améliorer un peu. Fait que je suis revenu, honnêtement, là, comme père, comme citoyen, je suis revenu rassuré qu'on est capable. C'est pas que c'est facile. La tâche est monstrueuse et monumentale, mais j'ai aucun doute qu'on est capable. Et ça, je pense que c'est un bon message d'espoir. Moi, je suis revenu vraiment Je suis vraiment devenu optimiste, dans le fond. C'est paradoxal. Hein?
David, il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie qui veut savoir, pratiquement, là, 3 ans plus tard, est-ce que ton corps s'est complètement remis de ce séjour dans l'espace 204 jours en orbite?
Oui, pas mal. Maintenant, je commence à porter souvent des lunettes. Fait que j'aimerais ça blanc, mais ça sur l'espace, c'est peut-être juste parce que j'ai 52 ans, puis ça finit par me rattraper. Mais blague à part, oui, j'avais des... en revenant, c'était terrible, vous m'avez vu peut-être là, quand je suis revenu, j'avais vraiment des problèmes là, d'équilibre, oui. Puis des problèmes là, de. Je m'évanouissais parce que le sang tombait dans les jambes, mon corps avait comme oublié comment pousser ça plus vers la tête. Oui. Ça, c'est réglé. Après ça, des problèmes un peu de posture, là, parce que j'étais un peu tout croche. J'étais comme fort en rentrant de l'espace. On fait du chest bra, si on veut.
Oui, oui.
Mais tous les petits muscles de stabilisation, de posture, la coiffe des rotateurs, les intervertébraux, tout ça, c'est. Tout ça, il y a juste la marche qui garde ça en santé. Fait que ça m'a pris quelques mois avant de redevenir là, un peu athlétique. Il y avait comme une espèce de blues psychologique. Hein? C'est peut-être ça qui était le plus long. C'est comme si, un peu peut-être dans la peau d'un Olympien, là, ou quelqu'un qui revient d'un grand voyage extraordinairement émouvant. On peut s'imaginer, il y a comme. C'est comme si j'étais tombé de la falaise de l'adrénaline.
Tomber de la falaise de l'adrénaline, c'est une très belle image.
Oui, il y a comme plus rien qui me faisait rien. Ça a duré longtemps. Puis c'est plus intangible, mais c'est ça qui a pris peut-être le plus de temps avant de que je m'ébroue de tout ça puis que je redevienne là, la personne que j'étais. Sinon, ben je joue un peu à la loterie avec le cancer en allant dans l'espace, hein, parce qu'on est plus exposé à des radiations.
Je savais pas
jour,
ça.
Oui, quand même, oui, parce qu'on est protégé des radiations cosmiques et des radiations solaires. On est protégé beaucoup par l'atmosphère, déjà, par les champs magnétiques de la Terre. Quand on quitte, là, quand on va dans l'espace, ben, on est comme un peu tout nu devant tout ça. Fait que ça, d'un point de vue santé, c'est à peu près ça, là, puis mes lunettes que je porte. Mais ça, je pense que c'est juste parce que j'ai 52 ans.
As-tu envie d'y retourner?
Oui, j'aimerais ça, mais tu sais, je suis retourné en arrière de la file d'attente en ce moment. Là. Il y a trois nouveaux, Josh, Jeremy, Jenny, qui ne sont pas encore allés. Fait que moi, ma tâche maintenant, c'est d'être en support, de m'assurer du succès de leur entraînement puis de leur mission à venir. Un peu comme quand moi, j'ai eu la chance de m'entraîner pour partir dans l'espace. Oui. Mais, tout le reste du bureau des astronautes était, si on veut, là, en coulisses, en train de travailler fort pour moi. C'est le retour du balancier.
Terminons sur un côté très humain, David. Je veux que tu expliques aux gens qui auraient peut-être raté ça. Moi, je t'ai déjà entendu expliquer que ta famille pouvait t'appeler sur la Station spatiale internationale.
Oui, alors on a... il y a un réseau de satellites qui est comme en orbite géostationnaire, très, très haut, donc beaucoup plus haut que la station. Mm-hmm. Puis on est connecté par ces satellites-là. Puis il y a toujours, toujours un qui est, en vue. Là. Fait qu'on peut faire un coup de téléphone pratiquement quand on veut. Ça, c'est facile, le téléphone. Pour ce qui est d'un genre de l'équivalent d'un FaceTime, là, de vidéo, ça, c'était plus compliqué à organiser, mais on avait droit comme à une heure chaque fin de semaine. Moi j'avais l'habitude là, de déjeuner avec mes enfants. J'avais trouvé dans la station des gaufres, des hydratés et puis du sirop d'érable comme dans un tube de passe dentifrice. Eux aussi ils mangeaient des gaufres au sirop d'érable. Fait qu'on déjeunait ensemble toutes les fins de semaine. Ça c'était notre petit rituel. Mais oui, on se sent pas. C'est paradoxal peut-être, mais on se sent pas loin. Il y a moyen de communiquer. Il y a pas d'excuse de s'ennuyer si on veut. Puis c'est quand même une aventure humaine très intense avec les compagnons là, qui sont à bord.
Tes enfants, comment ils percevaient ça que leur père était vraiment dans l'espace comme dans les films?
Mais ils étaient petits, mes enfants. Mmh, à l'époque de la mission, là, ils étaient tout petits. Il y avait comme 7 ans, 5 ans, puis 2 ans. Fait que t'es tout petit. Là. Ma fille cadette, qui avait 2 ans à l'époque, pendant longtemps, elle était convaincue qu'elle est venue avec moi. Parce qu'elle a vu plein de vidéos de moi, tu sais. Puis elle les a comme absorbées comme des choses qu'elle a vues elle-même. Puis là, c'est juste en ce moment-là, là, 5 ans, 6 ans bientôt. Là, je pense, elle commence à dire, non, ça n'a pas d'allure, ça se peut pas. J'étais pas là pour vrai. Mais les garçons plus grands, surtout mon fils aîné, lui, il comprenait bien ce qui se passe. D'ailleurs, c'est touchant de voir à cet âge-là, ils comprennent très bien c'est quoi la Terre, les orbites, la Lune est où, la station, c'est où, comment ça tourne, c'est même dans quel sens ça va, comment on se rend là-bas. Et puis pour eux, c'est comme la maison dans l'espace, là. Et puis, c'est pas que c'est normal, mais tu sais, ils sont, comme beaucoup de gens de leur génération, il y a des astronautes, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a en permanence des êtres humains qui sont pas sur Terre. Et il y a, c'est la vie, c'est pas de la science-fiction. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des équipages en rotation. Il y a toujours des êtres humains qui sont pas sur Terre. Fait que ça, les jeunes, je pense, l'espace fait vraiment partie de leur vie quotidienne.
Est-ce qu'il y a un de tes enfants qui veut imiter papa pour devenir astronaute?
Mon fils a déjà dit un jour quand il était petit, ah, moi, j'aimerais être astronaute, papa, et explorer la Terre. Fait que ça, j'ai dit, ouais, ça, c'est une bonne idée, c'est la plus belle place dans l'univers.
Toujours un plaisir de t'écouter parler d'espace. Merci beaucoup, David.
Merci, Patrick. Bonne soirée, tout le monde.
Toi aussi, excellent été à toi. David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Ben, vous le savez, sur la scène internationale, le Canada, on est pas mal amis avec tout le monde. On n'a pas de gros différends, on n'a pas de guerre avec qui que ce soit. Ça fait longtemps, en tout cas. Des fois, on se joint à des coalitions internationales pour faire des interventions militaires. Ça s'est vu. Mais sinon, on n'est pas des belligérants. On va dire ça comme ça. Mais saviez-vous qu'on avait un gros différend territorial avec le Danemark? Oui. Puis c'est quoi le rapport? Vous allez me demander. Bon, regardez. Sortez là votre carte mentale du Canada. Oui, il y a d'un océan à l'autre, mais il y a tout ce qui est l'Arctique canadien, qui est un immense territoire. Et l'Arctique canadien va toucher au Groenland. Le Groenland, ça appartient au Danemark. Et là, il y a, entre le Groenland et l'île canadienne d'Ellesmere, il y a une toute petite île, l'île de Hans, qui était revendiqué jusqu'à tout récemment par le Canada et par le Danemark. Et là, ça donnait lieu à un bras de fer. On a appelé ça, mesdames et messieurs, la guerre du whisky. Oui, oui, parce que de temps à autre, les soldats, les militaires des deux pays allaient changer le drapeau sur l'île. Les Danois allaient mettre le drapeau du Danemark, les Canadiens allaient mettre le drapeau du Canada, et on laissait pour les prochains militaires arriver de l'alcool local. Et voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça la guerre du whisky.
Genre de guerre qu'on aime. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de...
Si toutes les guerres étaient comme ça, on pourrait dire la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal.
Very Canadian.
On va parler de tout ça avec Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique. Il a été directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Professeur Roussel, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé. J'imagine que vous devez être soulagé d'apprendre ça.
Ben,
que la guerre est finie.
Dans les choses qui me tiennent réveillées la nuit, une guerre avec le Danemark, je vous dirais que c'était pas mal dans le top 3.
Oui. Mais ça, c'est vrai qu'au cours des dernières années, du fait que le seul moment où on peut aller sur cette île-là ou dans cette région-là, c'est pendant l'été, surtout au mois d'août. Si le ministre de la Défense, comme ça s'est déjà produit, y va, c'est certain que les journalistes ça va attirer l'attention des journalistes, et donc ça va se retrouver dans les journaux, et donc ça va préoccuper un certain nombre de personnes au Canada, effectivement.
Bon, donc là, on comprend que, bon, les Canadiens, les Danois disaient ça, c'est à nous. Qu'est-ce qui explique que les deux pays avaient pas de terrain d'entente sur cette île-là, l'île de Hans?
D'abord, il faut bien comprendre que là, on parle d'une île qui est au 80e degré nord, là, c'est-à-dire c'est loin au-dessus du cercle polaire. C'est un endroit qui est très difficile d'accès. Et la frontière entre l'île d'Ellesmere et le Groenland, donc dans ce qu'on appelle le passage de Davis, elle a été découpée de manière assez, si vous voulez, mathématique par rapport aux côtes des deux pays. Et ça donne que cette île-là est en plein sur le tracé de la frontière. Et là, on parle d'une île là, de 1,3 km². Si vous allez jouer au football sur cette île-là, vous allez chercher souvent votre ballon dans l'eau. Là. C'est rien, c'est un petit rocher qui sort de l'eau. Si bien que on s'est dit, bon, ça tombe effectivement sur sur la frontière, mais bon, on réglera ça plus tard. Et depuis 1973, ben, les deux pays disaient, c'est à moi, puis on continue à le revendiquer. Là. C'est juste maintenant, en fait, au bout de 50 ans qu'on est parvenu à résoudre le conflit.
Là, ce conflit-là a été tranché littéralement dans le milieu. Expliquez aux gens comment ça s'est réglé.
Oui, parce qu'en fait, chacun des deux parties revendiquait l'île elle-même, donc elle tombe de son côté de la frontière. Et il y a des raisons symboliques importantes qui peuvent empêcher des fois de dire, ben oui, même si c'est juste un petit bout de caillou comme ça, on va le laisser aller. Non, parce que ça fait partie quand même du territoire national. Pour les Canadiens, l'Arctique, c'est quelque chose d'extrêmement important puis de très sensible. Ça fait partie de l'identité nationale et internationale du Canada. Pour les Danois, c'est aussi toute la question de dire, ben, on veut pas donner des bouts du Groenland, parce que surtout le Groenland est dans un, tranquillement, ça va dans un processus d'accès à l'indépendance. Donc, on voulait pas brader des bouts du territoire. Mais la raison a finalement prévalu, c'est-à-dire, on dit, ben, on va la couper en deux. On va prendre la frontière maritime, puis on va la prolonger à travers l'île, si bien qu'une partie, c'est pas 50-50, mais c'est très proche, si bien que c'est peut-être la manière la plus raisonnable, si vous voulez, de régler un conflit comme celui-là.
Et qu'est-ce qui explique que ça, le conflit s'est déroulé de façon très ludique? J'expliquais tantôt que les militaires canadiens allaient de temps en temps mettre un drapeau canadien. Les Danois allaient enlever le drapeau canadien, mettaient le drapeau du Danemark. On laissait même de l'alcool pour les militaires de l'autre pays. Qu'est-ce qui explique que ça a été aussi comique?
Ben, le Canada et le Danemark sont des alliés dans l'OTAN, dans la mesure où ce conflit-là ne soulevait aucun autre enjeu. Il n'y a pas d'enjeu stratégique, il n'y a pas d'enjeu d'exploitation d'hydrocarbures ou de trucs comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a autour de l'île, mais l'île elle-même, il y avait seulement l'île qui était en cause et pas d'autres enjeux. Si bien qu'il n'y avait personne qui voyait la raison de déchirer sa chemise sur ce sujet-là. Pour les Canadiens, un des enjeux qui était derrière, c'est de dire, ben, admettons qu'il y a d'autres contestations qui, ça peut se produire, parce qu'avec le changement climatique, le pourtour de la région arctique peut changer, ben, s'il y a d'autres revendications qui viennent, ben, on va essayer d'asseoir la position la plus solide. Donc, on ne commencera pas à capituler tout de suite de peur que ça serve de précédent. C'est pour cette raison-là que ça a traîné un petit peu aussi, mais le fait surtout qu'il n'y avait pas d'urgence.
Mais quand même, là, le Danemark est membre de l'Union européenne. On a maintenant une frontière commune avec le Danemark, donc le Canada a une frontière commune avec l'Union européenne.
Pas exactement, parce que le Groenland, lui, est pas membre de l'Union européenne. Donc, le Groenland s'est retiré justement sur des questions de droits de pêche à la fin des années 80. Donc, c'est pas si clair que ça. Mais oui, maintenant, on peut dire que le Canada a deux frontières terrestres, en tout cas, deux frontières avec terrestres avec deux autres États. On avait celle avec les États-Unis. Et maintenant, il y a une nouvelle frontière qui vient d'apparaître avec le Danemark-Groenland. Moi, je préfère parler du Groenland dans la mesure où, de plus en plus, les Groenlandais gèrent leurs propres choses et les Danois leur laissent le plus grand espace, parce que le Groenland, justement, a de plus en plus de velléité d'indépendance et les Danois sont les appuient dans cette démarche-là.
Mais c'est officiellement, le Groenland, c'est encore un territoire qui dépend du Danemark.
Oui, c'est encore, si vous voulez, ça fait partie du royaume du Danemark. C'est une des constituantes du royaume du Danemark avec les îles Féroé. Oui.
OK. La ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, et son homologue danois, là, quand ils ont signé, on va appeler ça l'accord de paix, qui a mis un terme à la guerre du whisky, tout ça est très drôle, mais ils ont dit que tout ça, là, le conflit et sa résolution, c'est un exemple pour la planète. Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
Dans la mesure où, d'abord, ce conflit-là n'a jamais dégénéré, quoi qu'il n'y avait pas de raison de dégénérer non plus, mais le fait aussi qu'il se soit résolu sur la base peut-être la plus raisonnable qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on coupe la poire en deux, 50-50, ou selon le tracé de la frontière maritime, c'est au lieu d'essayer de revendiquer, de tout avoir, puis de faire un grand spectacle autour de ça, ben on a décidé de le faire de la façon qui est la plus, justement, la plus raisonnable, si bien que dans ce sens-là, ça peut devenir un exemple de résolution pacifique des conflits et de résolution, si vous voulez, sur des bases qui sont commandées par la raison et par le droit et non pas par la force ou par des grands cris. Là.
OK, en terminant, ce conflit-là avec le Danemark, professeur Roussel, là, ça s'est réglé de façon pacifique, ça s'est conduit de façon ludique, mais l'Arctique canadien, quand même, la région de l'Arctique, c'est un territoire qui est quand même disputé, puis ça risque de pas toujours se régler comme ça, avec des poignées.
Non, c'est qu'en fait, maintenant, on va revenir peut-être à des choses plus sérieuses. Il y a deux conflits qui ont cours actuellement, même s'ils sont dormants, mais il y a deux conflits qui existent. Celui avec les États-Unis sur la mer de Beaufort, qui est quand même beaucoup plus sérieux, parce qu'on parle de 6000 milles nautiques carrés. Et il y a aussi le conflit sur le statut légal du passage du Nord-Ouest, que les États-Unis, mais aussi aussi, la plupart des autres pays contestent la prétention canadienne que ce sont des eaux intérieures. Et ça, c'est peut-être quelque chose de plus, peut-être pas inquiétant, mais tout de même, c'est quelque chose dont le gouvernement canadien doit se préoccuper. L'île de Tartupaluk ou de l'île de la mer de Lincoln avec le Danemark, c'est insignifiant. Mais le passage du Nord-Ouest et la mer de Lincoln, ça, c'est des conflits qui méritent beaucoup plus d'attention.
Bon, on va surveiller ça, on aura peut-être l'occasion de s'en parler. Merci d'avoir été avec nous, professeur Roussel.
Merci de l'invitation. À la prochaine.
À la prochaine. Stéphane Roussel, professeur à l'ENAP, était directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Donc, nul besoin d'acheter des bunkers, de faire des provisions. Il n'y aura pas de guerre avec le Danemark.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Bon, plus je plonge dans ce dossier-là, plus je le trouve surréaliste. Ça se passe à Longueuil. Il y a un projet pour ralentir la circulation afin de laisser les enfants jouer en toute sécurité dans la rue. Et c'est pas sur un boulevard très passant, là. C'est sur une rue qui s'appelle la rue Saint-Michel. La ville a installé, par exemple, là, des bacs à fleurs au milieu de la chaussée. Ça force les automobilistes à ralentir. Je regarde les images. Vraiment une rue de banlieue typique, là. Tout ce qu'il y a de plus typique, là, des banlieues construites dans les années 60, des bungalows, des terrains avec du gazon. Mais l'initiative de la ville, soutenue par plusieurs parents, ça provoque de la zizanie dans le quartier. Il y a des citoyens qui veulent pas que les enfants jouent dans la rue. Semble-t-il que ces citoyens-là trouvent que c'est plate de devoir ralentir. Et il y a des gens qui s'invectivent. Il y a même des gens qui accélèrent à côté des enfants parce qu'ils sont fâchés. L'affaire a rebondi au conseil municipal hier. On va écouter une maire qui s'appelle Maude Provost, qui est allée parler au conseiller de ville.
Au début, il y a un monsieur qui est arrivé. Quand il a vu le bac à fleurs, ma voisine était dehors avec ses enfants. Il a accéléré d'une façon dangereuse. Il a failli rentrer en collision avec un de ses garçons. Ensuite de ça, le même monsieur, très fâché, en fait, de source que j'ai su, je n'étais pas là, a pris son véhicule pour pousser le bac le plus loin possible, loin de sa maison. Donc, notre climat a commencé comme ça, le beau projet Marie pour jouer le mardi dernier.
Donc, ça se passe rue Saint-Michel c'est comme je vous le disais, là, c'est la zizanie. Jonathan Tabara est conseiller municipal et vice-président du comité exécutif de Longueuil. Monsieur Tabara, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé. Merci de me recevoir.
Est-ce quelque chose qui m'échappe dans ce dossier-là?
Je me pose la même question. Vraiment, vous l'avez dit, c'est une petite rue retranchée là, dans un quartier tranquille qui est près d'aucune artère, réellement, qui est familial. Puis le quartier Bellerive, je vous le dis, là, pour toutes les familles, c'est vraiment un quartier de prédilection pour aller s'installer. Mais je sais pas ce qui se passe dans ce petit tronçon de la rue Saint-Michel depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais il y a réellement une espèce de coalition de voisins enragés. Là, et c'était profondément inquiétant pour les parents. Donc, il a fallu agir. C'est pas des mesures à tout casser. Là, c'est des bacs à fleurs puis de la signalisation. Donc, ça empêche personne de faire ce qu'il y a à faire dans la vie de tous les jours.
Dans les années 80, là, j'habitais dans le même type de rue, M. Tabara, puis on est, je veux dire, les autos ralentissaient quand on jouait au hockey. Là, c'est quoi, qu'est-ce que les enragés, comme vous les appelez, vous donnent comme justification pour être contre le fait que des enfants jouent dans leur rue?
Ben, écoutez, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que les enfants jouent dans la rue, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de le faire de façon sécuritaire. Oui. Et si les parents l'ont demandé, ben c'est parce qu'ils sentaient pas que leurs enfants étaient en sécurité, parce qu'il y a des gens qui l'ont jamais apprécié. Ben les raisons, bien honnêtement, j'en ai pas entendu une bonne. Pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est réellement un enjeu philosophique. Ils sont contre le fait qu'il y ait des enfants qui jouent dans la rue. Ils veulent pouvoir circuler sans avoir le besoin de ralentir. Ils veulent pouvoir se stationner au lieu de devoir faire quelques mètres de plus parce qu'il y a des interdictions de stationnement à côté des bacs à fleurs, mais ils perdent très peu de place là, dans une rue où il y a énormément d'espace. Donc, réellement, une bonne raison, j'en ai pas entendu une.
J'ai-tu compris que la limite, c'est 50 dans la rue?
Non, c'est 40. C'est 40, mais avec les bacs à fleurs et la signalisation, normalement, on essaie de pas rouler à plus que 30, là, mais c'est 40 la limite.
OK. Il y a eu un référendum dans cette rue-là?
Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu un sondage que la dernière administration a fait pour voir finalement s'ils allaient de l'avant avec le projet, même si les ingénieurs ont dit aucun problème, c'est vraiment une rue optimale pour faire du jeu dans la rue, et le projet Ma rue pour jouer était très intéressant pour les familles. Mais donc, il y avait des voisins qui étaient pas contents, qui ont demandé un vote. Ils ont fait un sondage. Mais le sondage était défavorable.
Juste une seconde. Quand vous dites qu'ils ont fait un vote, c'est pas la ville qui l'a organisé, là.
C'est la ville. Oui, c'est la ville qui l'a organisé. C'est la dernière administration.
OK, c'est la dernière administration. Parfait. Mais oui. Là, je vous pose la question, c'est bien plate. Je suis pas d'accord avec eux, mais si les citoyens ont voté contre dans le coin, pourquoi vous l'avez imposé quand même, le projet Ma rue pour jouer?
Ben parce que pour moi la sécurité ça a pas de prix, puis on fera pas de compromis sur la sécurité des enfants. Les gens accéléraient quand ils voyaient les enfants dans la rue, ils accéléraient quand ils voyaient les il y avait beaucoup de chicanes de voisins, l'intimidation. Tout ce que je vous dis c'est des témoignages de parents là, évidemment j'étais pas sur place, mais les parents me disent que des fois il y avait des voisins qui sortaient insulter leurs enfants, qui quand ils passaient avec leur véhicule justement essayaient de faire peur aux enfants. Donc je me suis dit écoutez, excusez-moi, mais au diable ce sondage. On s'en va de l'avant, on impose le projet et ceux qui sont pas contents auront juste à ralentir et se choquer contre moi et ils n'auront pas à se choquer contre les enfants.
OK. Il y a des gens qui ont accéléré en voyant les enfants, mais ce que vous me dites, c'est que... est-ce qu'on sait si la police est dans le dossier? Je dis, c'est quand même dangereux, là, ce genre de comportement-là. Là.
Ben, tout à fait. Écoutez, il y a un journaliste, il y a un caméraman de CBC qui était là hier et qui s'est fait menacer par justement un des résidents qui lui a montré un bat de baseball là, en signe de menace. La police est intervenue dans les deux derniers jours. Je ne sais pas si ils y sont retournés aujourd'hui, mais on m'a indiqué qu'ils évaluaient des mesures supplémentaires. On peut pas prendre ça à la légère. Là. C'est de l'intimidation, c'est de l'agressivité. Puis pas envers n'importe qui, là. Ce sont des très jeunes enfants, ce sont pas des vandales, là. Donc il faut les protéger et on prendra pas de demi-mesure là-dessus. Là. Il va falloir prendre la situation très au sérieux.
J'ai regardé des extraits du conseil municipal d'hier. Là. Il y a des mères de famille qui sont allées dire à quel point elles aimaient ce projet-là et à quel point c'est normal qu'en banlieue, des enfants puissent jouer dans la rue, mais il y a aussi des gens du quartier qui sont allés dire à quel point ils sont choqués parce que la démocratie n'est pas respectée, parce que il y a eu un référendum sous l'ancienne administration. Il y a même un monsieur qui a parlé d'injustice, oui. Jonathan Tabara. Sont combien les résidents qui veulent pas que les enfants jouent dans la rue, sur la rue Saint-Michel?
Ben, écoutez, dans le sondage, il y a moins d'une vingtaine de maisons dans ce petit tronçon de rue. Le sondage a été fait sur 13 maisons et il y en avait 7 qui étaient contre. Donc, on a déjà vu mieux en termes de représentativité. C'était pendant la période estivale. Donc, beaucoup de familles étaient en vacances. Je suis pas tout à fait convaincu, moi, des résultats du sondage. Mais en effet, il y a des gens qui sont venus s'y opposer. Puis, ce qui m'a un petit peu choqué, là, vous l'avez vu, j'étais émotif pendant cette séance du conseil parce que il y a des maires qui m'ont appelé la journée même, dans deux appels différents, où ils étaient en pleurs. Mes enfants retournent à l'école. J'ai peur, Monsieur Tabara, de ce qui va arriver. Je serai pas là pour les surveiller. Il y a des gens qui peuvent leur rentrer dedans. Je suis particulièrement inquiète. Donc, j'ai dit, écoutez, on appelle la police, là, puis on prend ça au sérieux.
Ceux qui sont contre, est-ce que je fais du profilage si je dis que ce sont principalement des retraités?
Ben, écoutez, en effet, oui, ce sont principalement des retraités.
Puis, oui. Est-ce que je comprends que eux avaient des enfants, puis eux, dans leur temps, laissaient les enfants jouer dans la rue?
Ben, écoutez, j'étais pas là, mais
c'est ce que mère a dit.
M. Lagacé, oui, exactement. En effet, M. Lagacé, tous les voisins m'ont dit, ben oui, ces gens-là avaient des enfants qui jouaient dans la rue. Puis il y a d'autres aînés sur la rue, là, des gens retraités qui étaient tout à fait d'accord avec le projet. Là. Donc, moi, ils me l'ont dit, là, les personnes âgées, ils ont dit, ben oui, on aime ça. Le quartier prend de la vie, les enfants jouent dans la rue. Puis, savez-vous quoi? Mes enfants, c'est ce que les gens âgés me disaient, mes enfants jouaient dans la rue avec les enfants de ceux qui sont pas d'accord. Donc, réellement, c'est difficile de comprendre ça. Vous avez dit, vous jouiez au hockey quand vous étiez jeune dans la rue, et moi aussi, et je pense que tous les Québécois le font, et je pense qu'on devrait encourager ça, être fiers. Après ça, on se plaint que les gens sont à l'ordinateur, à l'intérieur, mais il faut l'encourager, cette mobilité-là, puis il faut sécuriser les rues pour le permettre.
Quand il y a eu un référendum là, sous l'ancienne administration, c'est les résidents de la rue Saint-Michel qui ont été consultés?
Oui, exactement. C'est les résidents de ce, mais pas de toute la rue, de ce tronçon-là où il y avait le projet.
Mais là, quoi, ils ont ouvert un bureau de vote puis ils ont convoqué les gens pour venir voter?
Ils ont envoyé une lettre à tout le monde de mémoire, écoutez, puis c'était comme, il y avait un peu de la zizanie, là, les gens étaient contre, donc c'était un peu une façon de... Je comprends le principe là, de vouloir consulter la rue, on peut pas être contre ça, mais par contre, c'est que quand on a vu que la situation de sécurité continuait, ben, au diable le vote, là, je suis désolé, mais dans ce temps-là, on prend les mesures appropriées, mais en effet, ils ont envoyé une lettre aux résidents et ils leur ont demandé de voter. Je sais pas s'il fallait réenvoyer une lettre ou c'était par Internet, là, mais il y avait une façon de voter sur place. Là.
Ma question est un peu absurde, mais est-ce qu'on a demandé à la police de patrouiller davantage sur la rue Saint-Michel?
Ben tout à fait. Mais oui, bien sûr. Sont bien au fait du dossier. On a aussi dit aux parents de ne pas hésiter d'appeler le 911 quand il arrive des choses comme ça. Parce que si la police le sait pas, là, ils peuvent pas agir. Donc des fois, on se dit bon, mais ça va être long avant que la police arrive, mais non, ils vont réagir tout de suite. Évidemment, s'il y a une autre urgence, ils vont avec leur priorité, mais ils doivent le prendre. Sont au courant, ils le prennent en note, ils le gardent dans leur dossier, puis ils savent qu'ils doivent agir sur la rue le plus vite possible.
Est-ce que vous avez perdu foi un peu dans la nature humaine?
Ben, je vous dirais que ça m'a ébranlé qu'on puisse réfléchir comme ça. Ça me rentre pas dans la tête qu'on puisse être contre des enfants qui jouent dans la rue. Là, ils ont pas été faire des graffitis sur les maisons. Là, ils jouent au hockey, ils jouent au soccer. Je ne vois pas de mal là-dedans, bien honnêtement. Puis surtout, c'est la façon de s'en prendre. T'sais, si les gens sont pas d'accord avec le projet, qui viennent m'en parler, qui se fâchent après moi? Ça fait partie de mon travail de vivre dans l'accord puis le désaccord. Ils ont pas à se fâcher après les enfants. Donc oui, ça me choque un petit peu, puis je trouve ça, vous avez qualifié la chose de loufoque, moi je la qualifie d'aberrante.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Tabara.
C'est moi qui vous remercie, M. Lagacé.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Jonathan Tabara, qui est conseiller municipal à Longueuil. MC, tu te frétilles, tu tortilles sur ton siège depuis tantôt.
Il n'y a plus grand-chose à dire, parce que honnêtement, c'est ridicule.
Je peux pas croire.
Tu sais, les gens qui accélèrent, le come on.
Tu sais, ben, on a tous vécu ça, là. Tasse les buts, il y a un char. Puis là, le monsieur, il arrivait avec son gros Pontiac 78, nous envoyait à main, blablabla. Ben, non, je sais pas, bonne game. C'est ça. Pour moi, un quartier avec des enfants, un quartier plus d'enfants, c'est pas un quartier qui vit, tu sais. Fait que là, la gang, vous menacez les enfants parce qu'ils jouent dans la rue, puis il y a un pot de fleurs qui vous ralentit. Ça va pas bien, gang. Allez dans votre sous-sol, regardez les formules en fin de semaine, barrez les portes, sortez pas dehors, restez chez vous.
Nous fait penser à ces paroles-là.
On n'a plus de mots,
j'ai vu les gens au conseil municipal qui sont allés chialer, on disait ça comme ça, parce que les enfants jouent dans la rue. Des vieux Chris. C'est juste ça que j'ai à dire.
C'est 23.